session de théologie à Rimont. Dieu des philosophes et Dieu des chrétiens. Le 24 octobre 1993, par le Père Samuel.
Alors après que vous ayez regardé plus le statut de l'approche de l'intelligence par rapport au mystère de Dieu, par rapport à la foi, et en reprenant la parole de Pascal, on va essayer de voir comment est-ce que le mystère de Dieu nous est révélé dans la révélation. Comment est-ce que il y a une pédagogie de Dieu, c'est une pédagogie qui est toujours actuelle, par laquelle il nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Et donc on va essayer de voir... Encore une fois, pas simplement la différence entre la foi et l'intelligence du point de vue formel, comme vous l'avez fait jusque-là, mais de voir comment est-ce que Dieu nous fait entrer dans une contemplation de Dieu, dans une contemplation de lui-même. On va rapidement regarder l'ancienne alliance, mais surtout on va essayer d'entrer dans le regard que le Christ nous donne sur Dieu. Et vous, pourquoi ? Parce que c'est très déroutant de voir que dans l'Évangile, Jésus ne fait pas de grands cours de théologie sur Dieu. Vous allez voir, c'est assez déroutant la manière dont est abordé par le Christ, dans sa prédication, le mystère de Dieu. C'est parce qu'il s'appuie sur l'ancienne alliance. Et donc c'est bon de reprendre, vous voyez, les grands moments, au fond, où Dieu se révèle. Saint Thomas nous dit que il était nécessaire que Dieu se révèle, même sur des choses que l'intelligence humaine est capable de comprendre, parce que l'homme aurait mis beaucoup trop de temps avant de le découvrir, et ne l'aurait jamais découvert de manière parfaitement juste. Dieu vient au secours de l'intelligence humaine en lui révélant ce qu'elle serait capable de découvrir. Et on va voir que l'ancienne alliance, elle est constituée de cette révélation. Donc, Dieu nous révèle des choses que nous pourrions découvrir par nous-mêmes. Quand vous lisez le décalogue, il n'y a pas besoin de la foi pour comprendre qu'il faut adorer Dieu, qu'il ne faut pas tuer son frère, qu'il ne faut pas commettre le vol, le mensonge, l'adultère. Vous voyez, j'allais dire, c'est des choses que l'intelligence humaine et que l'homme laissé à lui-même peut comprendre, mais que Dieu lui révèle pour lui gagner du temps et puis pour lui gagner des hésitations et des doutes. Il affirme de tout le poids de son autorité ce que l'homme mettrait du temps et de manière hésitante à découvrir. Le premier moment, je ne regarde pas les 11 premiers chapitres de la Genèse, hein, qui ne regarde pas premièrement l'histoire, mais qui regarde au fond l'humanité dans ce qu'elle a de plus fondamental. Et le premier moment, c'est Abraham. Abraham fait partie de la civilisation de la Mésopotamie, la civilisation d'Ur, qui croit en Dieu, mais qui croit en Dieu comme toute cette région à cette époque-là, de manière assez floue. C'est-à-dire qu'il y a une divinité, mais il n'est pas sûr d'abord qu'elle soit la seule. Et puis ensuite... Il y a beaucoup de magie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... L'essentiel de l'existence religieuse, c'est de réussir à maîtriser le destin par un culte, par des rites, voire par des pratiques superstitieuses. Donc Abraham, si vous voulez, il n'est pas né dans un pays dans lequel il avait un bon enseignement sur le monothéisme le plus pur qui soit. Il est né dans un pays dans lequel ce qui ne s'appelle pas encore l'idolâtrie, parce que les idoles, tant qu'on ne sait pas que c'est des idoles, c'est un commencement de la recherche de Dieu, mais dans lequel l'approche du mystère de Dieu est encore très grossière. Et ce qui est impressionnant, c'est que Dieu ne commence pas par se révéler en lui expliquant qui il est. Ça commence par « quitte ton pays », ça commence comme ça. « Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Vous voyez, Dieu ne révèle même pas son nom. Il donne un ordre à Abraham. C'est-à-dire, et ça c'est très impressionnant, Dieu commence par réclamer l'obéissance de la part de l'homme avant de lui dire qui il est. Et l'ordre qu'il lui donne est impératif. C'est un ordre d'exode. C'est-à-dire qu'il ordonne à Abraham de quitter ce qui lui est connaturel dans l'obéissance à Dieu. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la démarche de l'intelligence philosophique qui part de ce qu'elle connaît pour rechercher progressivement, vous voyez, du visible à l'invisible, ce qu'est Dieu. Là, Abraham, il part pour l'inconnu, sur la seule parole de Dieu. Donc il est immédiatement, et c'est une très belle pédagogie de la foi, vous voyez, il est immédiatement installé dans l'inconnu, Abraham. Il obéit à Dieu, éclairé simplement de l'intérieur par Dieu et par sa parole, mais sans avoir aucune garantie, aucune caution, aucun projet, vous voyez, aucune assurance. Et donc Dieu se révèle par la par sa présence exigeante avant de dire qui il est. Comme s'il était nécessaire pour la foi, au fond, comme s'il était nécessaire pour recevoir la révélation de Dieu dans la foi, de commencer par quitter son pays, sa parenté, la maison de son père. Vous voyez, comme si, ça c'est une manière très très belle, très concrète, hein, de faire comprendre que ce que Dieu a à me révéler de lui-même et de l'homme dans la foi réclame de perdre les points de repère humains. Vous voyez, c'est pas du tout la démarche, encore une fois, philosophique. Dieu ne veut pas être approché à l'intérieur d'une culture. Il sort quelqu'un de sa culture pour pouvoir, vous voyez, lui révéler qui il est. Et si vous regardez toute l'histoire d'Abraham, c'est essentiellement un dialogue entre Dieu et Abraham. Et d'une certaine manière, j'allais dire, le mystère de Dieu se révèle dans ce dialogue. Dieu est d'abord quelqu'un qui parle, qui s'adresse à l'homme. Et qui ne s'adresse pas à l'homme sous le mode de la terreur, ce que l'homme imagine tout le temps. Vous voyez, dans les civilisations, même où il n'y a pas de révélation, il s'imagine toujours que Dieu se révèle par sa fureur, sa colère. Enfin, lisez les tragiques grecs. Donc, il ne s'adresse pas à lui par sa colère. Il ne s'adresse pas à lui parce qu'il est sous un mode complètement bizarre ou fantasmagorique. C'est extrêmement simple, vous voyez, il n'y a pas de mise en scène. Il s'adresse à lui par un dialogue. Au fond, j'allais presque dire, peut-être la seule chose que l'homme n'avait pas imaginée, et n'aurait pas pu imaginer, que Dieu s'adresse à lui comme un homme s'adresse à un homme, mais avec cette seule différence qu'il lui réclame une obéissance inconditionnelle. Très étonnant, vous voyez, Abraham est pris de court, quoi. C'est pour ça qu'il obéit. Il n'a pas encore, parce qu'on va voir après ça que l'obéissance, elle n'est pas toujours facile. Mais vous voyez, j'allais dire, il n'a pas eu le temps de se préparer des armes pour éviter la parole de Dieu. Il n'a pas eu le temps de falsifier les choses parce qu'il est complètement pris à contre-pied. Et c'est très beau, vous voyez, de voir, j'allais dire, la pédagogie de Dieu qui s'adresse à nous à un endroit où on ne l'attendait pas, selon un mode sous lequel on ne l'attendait pas, qui est un mode extrêmement direct et qui est un mode impératif. Vous voyez, c'est très beau de voir, la profondeur de la dépendance que ça crée entre Dieu, entre Abraham et Dieu. Dieu s'engage au fond à l'éclairer et à le guider. C'est énorme. Vous voyez, Dieu se révèle comme celui qui va prendre en charge Abraham. aujourd'hui qu'on est pris en charge. Il organise le voyage, si vous voulez. Il ne lui explique pas où est-ce qu'il va, mais il organise le voyage. Sans lui expliquer ni par où il va passer, ni parce qu'il vaut mieux d'ailleurs, parce que s'il avait expliqué à Abraham où est-ce qu'il fallait passer, sans doute qu'Abraham ne serait pas parti. Mais vous voyez, je crois que c'est très important de voir que la révélation du mystère de Dieu, on va voir qu'elle a ensuite un contenu pour l'intelligence. Mais elle ne s'adresse pas d'abord à l'intelligence, elle s'adresse à la confiance. Qui implique l'intelligence, hein, oui. Mais j'allais dire, Dieu réclame la confiance. Il réclame l'abandon, si vous voulez. Donc Dieu est celui qui protège l'homme dans le chemin qu'il réclame de lui. Et on va le voir, c'est très beau, on va revoir dans l'Exode, vous voyez. Dieu accompagne l'homme dans son chemin. Mais il l'accompagne parce que c'est lui qui le choisit. Et Dieu veut emmener Abraham sur un chemin qu'il ne connaît pas. Et dans un lieu qu'il ne connaît pas. Oui, c'est ce que va manifester les 40 ans de l'Exode et que le peuple d'Israël gardera toujours à sa mémoire. Parce que, vous savez, il y a cette prière du peuple d'Israël qui est dans l'Exode. Souviens-toi que ton père était un errant dans le désert, que c'était un nomade, que c'était quelqu'un qui était un pèlerin. Une prière qu'Israël se redit jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, donc, même quand après ça, Israël est installé dans la terre promise, quand après ça, Israël est installé dans son temple, Israël, j'allais dire le peuple d'Israël et le peuple des croyants, est intrinsèquement un peuple en pèlerinage. C'est pas un peuple installé. Dieu ne cautionne jamais l'installation. On va voir, il est obligé de les réexiler à Babylone parce qu'ils se sont installés dans le temple. Vous voyez, et qu'ils ont fini par identifier Dieu au temple. La présence de Dieu au temple. Et donc je crois que c'est très important de voir, j'allais presque dire, le caractère pratique. Vous voyez, Dieu engage Abraham dans un pèlerinage dont il a la direction, dont il a la finalité. Et c'est l'acceptation de cet abandon de son existence quotidienne entre les mains de Dieu qui donne au cœur d'Abraham la première expérience de ce qu'est Dieu pour le croyant. Vous voyez, on est du côté de la vie, on n'est pas du côté de l'intelligence. Dieu ne rencontre pas l'homme d'abord du côté de l'intelligence. Comme le philosophe le fait. Le philosophe cherche Dieu avec son intelligence, du côté de la connaissance. Là, il ne s'adresse pas d'abord à sa connaissance, mais à sa confiance, à son abandon. C'est très beau. Encore une fois, je crois que c'est pour être plus sûr de pouvoir ensuite éduquer Abraham à sa manière. Et éduquer quelqu'un dans son milieu, c'est très difficile. Parce que son milieu lui donne sans cesse des outils pour contrecarrer l'éducation qu'on lui donne. Quand le milieu n'est pas favorable, vous voyez. Alors que quand vous le déracinez de son milieu, il perd ses points de repère. Et donc, du coup, vous avez une chance de pouvoir l'éduquer de manière nouvelle. Même si on va voir, les points de repère, ils reviennent vite. Abraham, il a des mœurs qu'il n'a pas oubliées. Il va avoir peur, vous voyez, que le pharaon lui coupe la tête, alors il va dire que sa femme est sa sœur, parce qu'il préfère que le pharaon lui prenne sa sœur plutôt que de se faire couper la tête. Enfin, il a des mœurs qui ne sont pas complètement sanctifiées, hein, Abraham. Donc c'est pas parce qu'il a quitté son pays qu'il en a quitté les réflexes. Mais c'est déjà pas mal qu'il ait quitté son pays. C'est la première manière de commencer à quitter complètement tout. Ça, c'est la première phase de la révélation. Abraham, Isaac et Jacob. Et d'ailleurs, quand on dira que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et pas le Dieu de Moïse, c'est au sens où il est le Dieu, j'allais dire, qui est lié à Abraham, Isaac et Jacob, oui, qui s'est engagé à leur égard à les accompagner et à les conduire dans ce qu'il appelle, il dit le pays que je t'indiquerai. L'Épître aux Hébreux dira, ce pays que Dieu indique, c'est le ciel. Il n'est pas sur la terre. C'est évident, la terre promise, c'est qu'un symbole. La vraie terre auquel c'est-à-dire qui est donnée au peuple des croyants, c'est le ciel. C'est le mystère de Dieu. La deuxième phase, c'est celle de Moïse. Et c'est intéressant de voir que dans ce premier moment de la révélation de Dieu, qui est celle à Abraham, Isaac et Jacob, il y a tout le temps les idoles qui traînent par derrière. C'est-à-dire que Dieu n'a pas choisi d'abord de rectifier l'intelligence d'Abraham, ni de ses descendants. Et qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de mélanges. Vous voyez, pas dans l'abandon. L'épreuve, elle est dans l'abandon, mais dans la foi, dans l'exercice de la foi. C'est la même chose. Le sacrifice d'Isaac, c'est la même chose. Vous voyez, j'allais dire, Abraham n'en tire pas de leçon intellectuelle. Le sacrifice d'Isaac, ça ne lui apprend rien intellectuellement. Par contre, ça change tout au niveau concret. Parce que ça, vous voyez, ça éprouve l'abandon d'Abraham jusqu'au bout. Ça oblige Abraham à manifester son abandon jusqu'au bout. Qui fait que même l'idée qu'il pourrait se faire du projet de Dieu sur lui, il a à l'abandonner. C'est ça Isaac. Isaac, c'est le fils de la bénédiction. Donc c'est celui qui est dépositaire du projet de Dieu sur lui. Et Abraham est obligé d'abandonner même ça. Vous voyez, ce qui montre bien que Dieu ne veut pas qu'Abraham, c'est-à-dire mette la main sur son projet. Qu'il s'en fasse une idée. Donc Dieu se révèle, vous voyez, d'abord comme celui qui veut que l'homme dépende de lui, volontairement, dans un abandon inconditionnel. Alors qu'au point de vue philosophique, mon abandon à Dieu, il est à la mesure de ma compréhension de la sagesse de Dieu. Vous voyez, l'abandon inconditionnel au point de vue humain, ça s'appelle le fatalisme. Comment vous voulez vous abandonner? Vous ne savez pas à qui vous abandonner, puisque philosophiquement, vous n'avez pas l'expérience de Dieu. Donc vous essayez d'être docile à ce que la sagesse de Dieu vous montre à travers les choses. Vous essayez d'obéir à la sagesse de Dieu telle que la réalité vous montre. Où est le bien le plus grand pour l'homme? Mais sans une révélation, c'est ça, c'est important de le comprendre, vous voyez. Sans que Dieu m'adresse la parole et s'engage à mon égard à me conduire dans mon existence, je ne peux pas m'abandonner totalement. Enfin, vous voyez, plus exactement, je peux m'abandonner totalement, mais pas inconditionnellement. Je garde la réserve de ma compréhension. Ou si vous voulez, au point de vue humain, c'est sous réserve que ça ne me paraisse pas contradictoire, si vous voulez, avec la sagesse de Dieu. Alors qu'au point de vue surnaturel, Dieu me demande de m'abandonner à lui, même si ça m'apparaît contradictoire. C'est exactement ce qu'il va faire avec Abraham à propos d'Isaac. C'est parfaitement contradictoire. Il lui donne un fils et ça n'a pas été commode. Et il le demande de le sacrifier lui, auquel il l'a donné. Comme contradiction, c'est pas possible de faire pire. Et donc, encore une fois, la révélation de Dieu, vous voyez, j'allais dire, elle s'insère dans l'intelligence pratique, d'abord. Dans l'expérience de l'abandon. Et pas, Abraham n'était pas un grand philosophe. Vous voyez, Abraham n'est pas un grand philosophe qui, au terme de sa méditation, a été illuminé par Dieu, qui lui dit, ben voilà, celui que tu cherches, c'est moi. Pas du tout. Abraham, c'était un bédouin qui n'était sans doute pas un grand philosophe, vous voyez, que Dieu a sorti de là en lui disant, maintenant, tu me suis. Moïse, c'est différent. Deuxième étape, Moïse. Moïse, c'est différent. Moïse, c'est un grand philosophe. Moïse, il a passé toute son enfance dans la cour de Pharaon. Et la culture égyptienne, c'est une culture de sagesse. Qui est beaucoup plus poussée que la culture d'Our. D'où vient Abraham. Et donc Moïse, il est éveillé dans son intelligence. qui va pas, on va voir d'ailleurs ce qui va pas être commode, parce que Moïse est éveillé dans son intelligence, il a plus de mal à s'abandonner à Dieu. Parce qu'évidemment, il discute. Vous savez, quand Dieu lui dit, maintenant tu vas aller voir le pharaon, et tu dis, mais tu comprends pas, moi j'ai la langue il a pas un cheveu sur la langue, enfin bon, il n'arrivait pas à parler bien, Moïse. Je sais pas pourquoi, si c'était qu'il se sautait, bon bref. Il dit qu'il a la langue lourde. Il trouve mille excuses, Moïse, pour se défiler. Et il est très astucieux pour les trouver. Parce que l'intelligence a été éveillée en lui. Vous voyez, donc ça confirme bien que Dieu ne voulait pas commencer à s'adresser à l'intelligence de l'homme, parce qu'il était certain que l'homme allait trouver le moyen de lui mettre la main dessus, de le récupérer, de pas suivre son projet, enfin oui, de pas lui obéir. Et à Moïse, il ne confie pas de mission. Sans lui révéler son nom. Donc vous savez, c'est le passage du buisson ardent, hein, dans l'Exode chapitre 3. Et là, c'est là qu'on voit que Dieu est d'une pédagogie merveilleuse. Il sait que Moïse a été éveillé dans son intelligence, donc il est curieux. Quand on voit la culture égyptienne est une culture technique aussi. C'est un dieu dans lequel on a beaucoup réfléchi sur l'amélioration des techniques. Les pyramides d'Égypte en sont le meilleur exemple. Et donc, il est astucieux, Moïse. Et Dieu l'intrigue. Il commence par lui mettre le buisson ardent, vous voyez. Et on voit Moïse qui dit, il se dit, je vais m'avancer pour considérer cet étrange spectacle. Et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Vous voyez, Moïse n'est absolument pas pétrifié parce que Abraham, Dieu s'est adressé à lui, il a tout de suite obéi à Abraham. C'est la bonne foi bien simple, vous voyez. Moïse, tout de suite, c'est la curiosité scientifique. Pas du tout impressionné, il dit, tiens, c'est bizarre. Et c'est Dieu qui est obligé de lui dire qu'il faut qu'il enlève ses sandales, que c'est un lieu sacré et qu'il n'y a pas à y venir comme ça. Mais c'est très significatif, hein. La profanation, elle est très facile pour l'intelligence, pour l'intellectuel. C'est pour ça que nous, on est une civilisation qui est une civilisation complètement... Vous voyez, qui est cérébrale, elle n'est même plus intellectuelle, elle est devenue cérébrale. Et donc pour elle, il n'y a aucune barrière à la profanation. Intellectuellement, tout est justifiable. Vous voyez, il n'y a même plus le sentiment de crainte primitif, premier, vous voyez, qui est enraciné dans toutes les civilisations, qui fait que le sacré, ça fait peur. L'intelligence, quand on s'en sert pas bien, elle peut toujours servir, vous voyez, à transgresser. Alors, elle permet aussi de dépasser des peurs irrationnelles, c'est évident, elle est très positive. Mais elle a le danger aussi de ne pas me donner le sens, vous voyez, de la crainte de Dieu. Donc Dieu est obligé de rappeler à Moïse que, vous voyez, qu'il ne s'approche pas comme ça. Et il se révèle d'abord à lui en lui rappelant, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face dans la crainte que son regard ne se fixât sur Dieu. Vous voyez ? Quand Moïse, on lui révèle que c'est le Dieu de ses pères, à ce moment-là, la crainte naît en lui. Mais qu'un buisson l'appelle, vous voyez, en lui disant Moïse, Moïse, ça ne l'a pas surpris. Dieu commence par lui donner sa mission, et après il lui révèle son nom. Alors, vous voyez, il lui dit ça. J'ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. J'ai prêté l'oreille. Alors, très beau, vous voyez, on commence à voir. On l'avait déjà vu avec Abraham, à propos d'Ismaël. Mais Dieu commence à révéler sa tendresse. C'est-à-dire le fait que ce que vit l'homme le touche. Jusque-là, Dieu n'a pas dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. J'ai prêté l'oreille à la clameur que lui arrachent ses surveillants. Certes, je connais ses angoisses. C'est extrêmement fort cette expression. Je connais ses angoisses. Je suis résolu à le délivrer de la main des Égyptiens et à le faire monter de ce pays vers une contrée plantureuse et vaste, vers une contrée où ruisselle lait et miel. Maintenant que la clameur des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi et que j'ai vu aussi l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc vous voyez que c'est une autre expérience. C'est toujours l'expérience d'un exode, bis. Mais cet exode, il n'est plus à partir de la culture d'Our, il est à partir de l'oppression et de la misère du peuple. Donc Dieu, c'est le premier moment où Dieu se révèle comme sauveur. Plus simplement comme celui auquel on doit abandonner son existence, mais comme celui qui va sauver son peuple. Et qui va sauver son peuple, pas parce qu'il est obligé de le faire en justice, mais parce qu'il a été touché par sa misère et qu'il connaît ses angoisses. Oui, c'est la proximité de Dieu qui est révélée là. Vous voyez, d'une certaine manière à Moïse, Dieu révèle une proximité plus grande, une compassion plus grande. Et en même temps, il va révéler sa transcendance. Il va lui dire ensuite, hein, alors, évidemment, Moïse dit, qui suis-je pour aller, ça c'est tout de suite, il discute. Moïse dit alors à Dieu, soit je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Vous voyez, il fait ça, il fait une répétition générale parce qu'il a la trouille. Il dit en fait, et dès que ça ne va pas aller, voyez, il va revenir vers Dieu en disant, mais qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Dis-moi ce qu'il faut dire, je ne sais pas, pourquoi tu m'as mis tous ces gens sur les bras, je ne sais pas quoi en faire. C'est tout le temps ça, Moïse. Mais c'est sa grandeur. Hein. C'est qu'il a compris qu'il n'était pas responsable et qu'il ne fallait pas qu'il essaye de se débrouiller tout seul. C'est ça qui est très grand. Vous voyez, Abraham, il va magouiller quand il faut. C'est vraiment le cas de le dire. Vous voyez, il va dire, oui, ma femme, c'est ma sœur, il n'y a pas de problème. Enfin, vous voyez, il n'est pas allé demander à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est très beau de voir ça, vous voyez, parce que son intelligence n'est pas encore sanctifiée à Abraham. Alors que Moïse, son intelligence est sanctifiée. Donc Moïse est à la fois, vous voyez, son intelligence lui fait qu'il plaide sa cause pour ne pas avoir à, vous voyez, à porter la mission de Dieu parce que ça l'embête. Mais en même temps, ayant accepté la mission, il sait très bien qu'il ne peut pas en être responsable. Et c'est très beau, c'est ça la conversion d'intelligence. C'est qu'au fond, chez lui, il y a une vulnérabilité plus grande qui est liée à l'intelligence. J'allais presque dire, vous voyez, Dieu veut une coopération plus grande entre Moïse et lui. Ce qui fait que Moïse va tout le temps venir lui demander des conseils. Pas se contenter de lui obéir. Mais Dieu va développer la coopération. Et c'est une coopération qui va se faire entre Dieu et Moïse, et puis entre Dieu, Moïse et Aaron. Il lui rajoute en plus un frère. Et puis Dieu lui confie une mission, vous voyez, ce qui n'était pas le cas d'Abraham. Je serai avec toi et voici le signe auquel tu reconnaîtras que ta mission vient de moi, que ta mission vient de moi. Oui, Abraham n'a pas de mission. Abraham, on lui demande de suivre. Voilà le signe auquel tu reconnaîtras que ta mission vient de moi. Lorsque tu auras mené le peuple hors d'Égypte, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Vous voyez, Dieu lui donne un signe en lui disant, voilà. C'est très beau, vous voyez, Dieu lui donne une mission en lui disant, ben voilà, maintenant débrouille-toi, mais le signe que tu auras, que ta mission, que ce que tu fais est vraiment de moi, c'est que vous arriverez, vous finirez par rendre un culte à Dieu sur la montagne. Donc, vous voyez, on voit bien que Dieu accompagne l'homme en lui laissant une part d'initiative plus grande. Vous voyez, il n'y a plus simplement maintenant la confiance, Dieu n'apparaît plus simplement comme celui qui réclame une confiance à l'homme, mais comme celui qui va lui donner sa confiance. Il lui confie sa mission. Donc, vous voyez, je vais dire, les liens sont déjà extrêmement forts entre Dieu et l'homme avant même qu'il lui ait dit qui il est. Et pour que Moïse puisse recevoir le nom de Dieu, il fallait ça. Qu'il soit solidaire de Dieu dans une mission commune. Donc il dit, soit je m'en vais trouver les enfants d'Israël et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? C'est l'intelligence. Ça. C'est comme Marie qui dira, comment cela va-t-il se faire? C'est la même question. Sauf que chez Moïse, il y a la peur en plus. La Vierge Marie, c'est l'exécution. Comment cela va-t-il se faire? Moïse, c'est comment leur répondrai-je s'ils commencent à me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Dieu dit alors à Moïse, je suis celui qui suis. Donc vous voyez, Dieu donne son nom à Moïse pour qu'il puisse donner son nom à ceux qui le lui demandent. Voici en quels termes tu t'adresseras aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est le nom que je porterai à jamais, sous lequel m'invoqueront les générations futures. Donc vous voyez, Dieu révèle l'identité entre le fait qu'il est le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui s'est allié à Abraham, Isaac, Jacob, et qui confie sa mission à Moïse, et je suis. Alors on écrit des tonnes de pages hein, sur le je suis, d'abord parce que ce n'est pas traduisible. En hébreu, ça peut s'introduire par je suis celui qui sera. Je suis qui je serai. Je suis celui qui est. Enfin, oui, on peut. Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Enfin, ça peut se traduire de mille manières. Parce que l'hébreu n'est pas une langue spéculative. C'est une langue. Lire ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Quand Jésus dit je suis. Et il le dit en grec, et là c'est parfaitement précis. Enfin, ça nous est donné en grec, et là c'est parfaitement précis, il n'y a pas aucune hésitation. C'est évidemment une allusion, donc Jésus se fait l'interprète autorisé, voyez, de cette parole de l'Ancien Testament. Donc pour nous, on a à le recevoir, vous voyez, selon le mot que dit Jésus, c'est « je suis », c'est ça que Dieu veut dire. Alors, c'est très déroutant sûrement, cette affirmation de Dieu. Philosophiquement, quand c'est au terme d'une analyse métaphysique, vous voyez, ça n'est pas surprenant. Pour Moïse, ça l'était peut-être un peu moins que pour Abraham. Abraham, il n'aurait rien compris. Vous voyez. Abraham qui sort de la culture d'eau, qui est une culture très symbolique, très, qui n'est pas du tout spéculative. Dieu lui aurait dit « Je suis celui qui suis », il aurait dit « Très bien, je suis très heureux, enchanté. » Alors que quand il lui dit qu'il faut partir dans un pays qu'il ne connaît pas, ça, il comprend Abraham, parce que ça veut dire quelque chose pour lui. À Moïse, ça veut dire quelque chose parce qu'il est de la culture d'Égypte. Alors, on ne sait pas bien quelle était la métaphysique. Mais il y a une recherche philosophique, ça c'est évident. Et que savoir qui est Dieu et quelle est la forme de son existence, c'est une des grandes questions de l'Égypte. Mais vous voyez, le « je suis » de Dieu n'est pas un « je suis » métaphysique, ce n'est pas une affirmation spéculative. Dieu ne dit pas « voilà, pour me définir, c'est par l'être que tu comprendras qui je suis ». Dieu ne dit pas ça. C'est « je suis » au sens de « je suis là » aussi. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est au sens de « Dieu se présente », c'est lui qui dit « je suis ». Ce n'est pas nous qui disons qu'il existe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quand vous dites « voilà ». Je suis certain qu'il y a quelqu'un dans cette pièce et quand il sort en disant c'est moi. Dans un cas c'est une hypothèse, alors philosophiquement c'est pas simplement une hypothèse, mais c'est pas la même chose d'affirmer au terme d'une recherche philosophique que Dieu est et qu'il est bon, immuable, impassible, c'est autre chose que lui se présente à moi en me disant je suis. Vous voyez la différence? C'est ça d'ailleurs qui va provoquer la stupeur des pharisiens et des scribes, c'est d'entendre Jésus dire « je suis » avec la même densité que Dieu a dit « je suis » dans l'Ancienne Alliance. Vous voyez, ce n'est pas un « je suis », ce n'est pas une définition, c'est une présentation, si vous voulez. Dieu se présente. Et plus que ça, il se révèle comme celui qui est lié à... Il s'est engagé, vous voyez, c'est... Il s'engage en disant « je suis ». Mais j'allais presque dire, Dieu révèle comment est-ce que il invite Moïse et le peuple d'Israël à comprendre qu'il est solidaire, qu'il est divinement solidaire de la transcendance de Dieu. C'est pas rien ça. Vous voyez, C'est une chose que Dieu, dans sa condescendance, vienne m'aider pour éplucher mes pommes de terre, élever mes enfants correctement, être gentil avec mes frères. Enfin, oui, ça, c'est... Que Dieu vienne m'aider à vivre ma vie humaine, je comprends. Mais qu'il me rende humainement solidaire de ce qu'il est, dans ce qu'il est, c'est-à-dire comme étant Dieu, ça, c'est pas compréhensible. Vous voyez, c'est ça l'enjeu de Moïse. C'est que Dieu est appelé, je veux dire, l'homme est appelé à vivre de Dieu. C'est déjà présent, là. Il dit, je suis. Et je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac et Jacob et tout le peuple d'Israël est désormais engagé dans la mission et désormais solidaire de Dieu dans ce qu'il est. Ça veut dire d'une autre manière que le peuple d'Israël et le croyant n'a plus moyen de comprendre quelle est sa vocation et sa mission en dehors de la transcendance de Dieu. Oui. Pour comprendre ce que j'ai à vivre, ce n'est pas en regardant ma nature humaine que je vais la comprendre comme croyant. C'est en regardant qui est Dieu. Oui. C'est ce qu'est Dieu qui va expliquer la mission d'Israël. C'est très très fort. Hein. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. La mission du peuple d'Israël, ce n'est pas d'obéir simplement, d'être des braves gens, vous voyez, qui adorent Dieu respectueusement. Vous voyez, la vocation d'Israël, ce n'est pas d'être pleinement humain. La vocation d'Israël, c'est d'être le peuple de Dieu. Ce n'est pas rien d'être le peuple de Dieu, ça veut dire celui qui appartient à Dieu. Ça veut dire celui qui n'est compréhensible que dans la lumière de Dieu. Là, c'est extrêmement fort comme affirmation. Donc vous voyez, avant même de m'avoir révélé qui il est, puisque ce ne sera que Jésus qui le révèle, Dieu dit au peuple d'Israël, voilà, tout ce que vous avez à vivre, vous ne le comprendrez pas si vous ne me regardez pas. Et c'est vrai d'ailleurs, tout le problème de l'Ancien Testament, c'est ça. C'est qu'eux, ils vont régulièrement récupérer leur vie et recommencer à vivre selon la manière dont ils comprennent. Et ça va toujours mal se finir. Parce que la manière dont ils comprennent Dieu, eux, c'est les idoles. C'est sûr, c'est plus facile de se représenter Dieu à travers des petites images. C'est moins difficile, vous voyez. Parce que ça donne des petites idées, ça meuble l'imaginaire, vous voyez, c'est moins perturbant. Mais n'avoir aucune image et savoir que tout ce que j'ai à vivre quotidiennement, c'est ce que va révéler la loi, d'ailleurs la loi elle va être pour ça. Que tout ce que j'ai à vivre quotidiennement, ça ne se comprend que dans la lumière de je suis, c'est perturbant. Vous voyez, Dieu là révèle une exigence nouvelle. Et inversement, ça veut dire que le peuple d'Israël découvrira qui est Dieu en acceptant d'être son peuple. C'est ça aussi que ça veut dire. Donc c'est pas en se creusant la tête, si vous voulez. C'est pas d'abord en faisant un cours de métaphysique que le peuple d'Israël va comprendre qui est Dieu. C'est d'abord en lui obéissant dans la mission commune qu'ils ont, et en étant tourné vers lui dans l'adoration. Très très beau, vous voyez. Dieu n'a pas demandé à Moïse de faire un cours de philosophie au peuple d'Israël. D'abord, ils n'auraient rien compris, parce que quand, en plus, ils étaient esclaves, donc je veux dire, ils avaient autre chose à penser. Alors, ça ne les aurait absolument pas intéressés. La seule chose qui les intéressait, c'est d'être libérés. Et même, c'était ambigu, parce qu'une fois qu'ils étaient libérés, ils ont trouvé que c'était plus dur d'être au désert, ils auraient préféré retourner dans l'esclavage. Vous voyez, j'allais dire, le peuple d'Israël est très loin d'une réflexion philosophique. Mais le rôle de Moïse, c'est de leur faire comprendre que la dureté de ce que... Enfin, parce que ça va être dur, les 40 ans au désert, hein. Ils vont tous mourir, sauf quelques-uns, sauf 3 ou 4. C'est que l'exigence de Dieu sur son peuple n'est pas à comprendre ni selon la vengeance, ni selon la dureté, mais n'est à comprendre que selon la mission confiée au peuple d'Israël, qui est d'être le peuple de Dieu. Et sans cesse, le peuple d'Israël, vous voyez, va régresser humainement, c'est-à-dire régresser à un regard humain, psychologique, en disant, voilà, si c'est tellement dur, c'est qu'au fond, Dieu, c'est vraiment, c'est une tuile, quoi. Il fait que nous embêter. Ce qu'il dit, il dit à Moïse, il fait que nous embêter, ton Dieu. Il nous emmène au désert, il ne donne rien à manger, on était beaucoup mieux là-bas, on était nourris, et en plus, on ne sait pas où est-ce qu'on va et on est perdu. Et que la seule chose qu'on a pour se guider, c'est une espèce de nuée qui se déplace selon les jours d'une manière qui n'est pas régulière. Et c'est vrai, c'est ça le désert. Ça se revit, hein, après ça, dans la Nouvelle Alliance. Il y a des jours de notre vie, c'est comme ça. Et Dieu veut pas. Par le baptême, c'est la même chose de baptême. Hein. Par le baptême, c'est comme le passage de la mer rouge, le baptême. Ça veut dire qu'après le baptême, c'est normal qu'on comprenne plus ce qu'on vit en dehors de la lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire, vous voyez, qu'il faut adorer chaque fois qu'on a ouvert une bouteille ou à faire la cuisine. Mais ça veut dire que ma destinée profonde, ma vocation profonde, ce que j'ai profondément à vivre, je ne le comprends pas sans la lumière de Dieu. C'est ça le baptême. Dieu m'a enlevé les clés explicatives de mon existence par le baptême. Enfin, mes parents ont bien voulu que je n'ai plus d'explication à mon existence en dehors de Dieu. Alors, je peux faire semblant. Ça, c'est mon problème. Je serai toute ma vie à la recherche d'une clé que je ne trouverai jamais. Si j'ai été baptisé et que j'essaye de vivre sans Dieu. Ça éclaire beaucoup, vous voyez, de situations de gens qui sont baptisés. Et effectivement, leur vie, ça tourne en rond. Qui est très différente de la vie d'un païen qui n'a pas été baptisé, quelqu'un qui n'a pas été baptisé et qui découvre progressivement Dieu. C'est complètement différent. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, la conversion, quelqu'un qui a été baptisé, la conversion de quelqu'un qui ne l'a pas été. Vous regardez bien, vous êtes proche d'eux, vous verrez que c'est très différent. Je ne vais pas le développer, hein, mais il faudrait regarder de près ensuite comment est-ce que cette alliance nouvelle, vous voyez, entre le peuple d'Israël et Dieu, elle se soude dans l'épreuve. Des 40 ans au désert, d'abord du Sinaï. Et c'est très beau la révélation du Sinaï, pourquoi ? Le buisson ardent, vous voyez, c'était le buisson ardent, ça a attiré Moïse. Le Sinaï, c'était autrement plus terrifiant. Je n'ai pas le temps de la relire, vous voyez, mais la révélation du Sinaï, c'est quand même terrible. La montagne qui fume, vous voyez, les nuages qui se mettent à hurler, vous voyez, c'était quand même impressionnant. Et Moïse lui monte sur la montagne. C'est vrai, Moïse, j'allais dire, a accepté, et d'ailleurs il monte avec lui les 70, hein, 70 du peuple d'Israël. Parce qu'au fond, Dieu peut être nourri par Dieu. J'allais dire, Moïse peut être éduqué à une adoration et une contemplation plus pure par Dieu sur la montagne. Le peuple d'Israël, il en est tellement loin que la seule chose qu'il peut comprendre pour l'instant, c'est la peur. C'est très impressionnant ça, que Dieu est obligé de recourir à la peur. Il n'a pas été beaucoup obligé de le faire jusque-là. Hein. Sinaï, c'est le premier moment. Il est face à des gens qui ont la tête tellement dure que la seule chose qu'ils comprennent, c'est ce qui leur fait peur. Et c'est ça, hein, le peuple. Et ça demeure dans le peuple d'Israël. Ça demeure même après le peuple d'Israël, ça demeure même chez les croyants. Vous voyez, c'est qu'il y a, dans certains cas, l'homme est tellement installé dans ses ornières et il ne veut tellement pas en sortir que la seule chose qui peut l'en faire sortir, c'est l'épreuve et la souffrance. Mais vous voyez, l'épreuve au sens, j'allais dire, presque négatif. Et ça, il faut comprendre que, je veux dire, Dieu est obligé, il a plus que ce moyen-là. Sinon, ils vont rester un peuple d'esclaves toute leur existence. Et toute leur vie, ils n'auront qu'une seule nostalgie, c'est de retourner en esclavage. Donc il faut bien comprendre que si Dieu se révèle comme le Dieu de la montagne, comme El Shaddai, hein, c'est le Dieu du Sinaï, c'est vrai, à partir du Sinaï, on a l'impression que c'est un autre Dieu que celui d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est un Dieu qui fait peur. C'est pas un Dieu qui fait peur pour faire peur. Mais c'est parce que le visage qu'il a pour ceux qui ne comprennent que ça, c'est effectivement celui de la toute-puissance. C'est pour ça que l'Ancien Testament dit toujours, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais évidemment, c'est absolument pas fait pour s'y arrêter. C'est fait simplement pour se tourner vers Dieu comme un pauvre. Et la vraie vocation du croyant, c'est d'être avec Moïse sur la montagne. C'est pas d'être en bas et d'avoir peur. Parce que c'est toujours. En plus, Dieu utilise ça et ça marche pas très bien parce qu'ils font le veau d'or. Parce que c'est vrai, il y a des moments, c'est ça qu'il faut voir. Le Seigneur fait ce qu'il peut, hein, mais avec ce qu'on est bouché, oui. Avec ce qu'il peut, dans certains cas, c'est même à double tranchant. C'est-à-dire que dans certains cas, le comprenant pas, on fait des fois pire. C'est pas commode, hein, de se mettre. Le temps qu'on comprenne qu'il faut se mettre à l'écoute de Dieu, ça prend du temps. Ce que ça veut dire que de se mettre à l'écoute de Dieu et d'accepter la mission, le regard qu'il a sur nous. Je vais pas développer, hein. Il faudrait regarder ensuite les juges, les prophètes. Pour montrer comment. Alors, ce qu'on regardera simplement, c'est comment, au bout d'un certain temps, la promesse faite à Abraham et refaite à Moïse s'approfondit. C'est plus simplement la promesse de la terre promise, puisqu'ils y arrivent dans la terre promise. Mais arrivant dans la terre promise, précisément, Dieu commence à leur promettre la vraie terre promise. Parce que les peuples d'Israël n'est pas bête, ils s'aperçoivent bien qu'une fois que les Hittites, les Jébuséens, les Périsites et tous les Philistins qui sont autour, c'est, la terre promise, elle est quand même passablement menacée. Et Dieu, à ce moment-là, j'allais dire, annonce, toujours à travers la figure de la terre promise, mais cette fois-ci une terre promise qui est céleste. Il est aussi, il n'a pas commencé par annoncer la terre promise céleste. Il a commencé par annoncer une terre promise terrestre. Et une fois qu'ils sont dans la terre promise terrestre, vous voyez qu'ils ont fait une première expérience de la réponse de Dieu à sa promesse. Vous voyez ? Une fois qu'ils ont vu que Dieu est capable de les emmener jusque dans la terre promise, physiquement, Dieu peut leur annoncer que cette terre promise n'était que la prophétie de la véritable terre promise, qui est celle de du ciel, qui est celle de la patrie céleste. D'accord ? Et c'est sur ce fond-là. Donc, vous voyez, Dieu n'apparaît plus simplement comme celui qui appelle l'homme à une confiance inconditionnelle, qui lui révèle qui il est et qui le lie à sa... qui lui donne une mission correspondant à ce qu'il est, lui, Dieu. Mais il annonce, il promet à son peuple, aux croyants, et à travers lui à l'humanité, on le voit très bien chez Isaïe, de l'amener jusqu'à la gloire. Jusqu'à une réelle terre promise. Et celui qui l'amène à cette terre promise, c'est le Messie. Vous voyez, la figure du Messie, elle apparaît comme ça. Et donc, on va voir que Dieu se révèle comme celui qui veut progressivement, avec ses exigences à lui, mais aussi avec la patience qu'il a à l'égard du rythme de l'homme, amener le croyant, son peuple d'abord, à sa gloire. Donc il est un Dieu qui me promet la gloire. Il est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu de l'alliance et de la promesse. Et c'est pas la même chose. Et l'alliance, elle est pour la promesse. Dieu me demande d'accepter cette... Vous voyez, Dieu demande cet abandon et cette confiance sans condition. Mais progressivement, il révèle à l'intérieur de cet abandon pourquoi est-ce qu'il est cet abandon. Mais c'est très beau. Dieu demande d'abord la confiance, ensuite il promet. Mais voyez, il ne m'explique pas tout ce qu'il va me donner en m'en donnant déjà un avant-goût avant de réclamer une alliance. Vous voyez, c'est vraiment sans condition. Et dès que l'homme rajoute des conditions, vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, il matérialise la terre promise. Alors la première matérialisation de la terre promise, c'était la terre d'Israël. Puis après ça va être le temple. On verra que même dans l'Église, une des tentations de la matérialisation de la terre promise, pendant un temps, ça a été l'Église. On a cru que parce qu'on était en chrétienté, on était au ciel. Non. L'Église elle-même, c'est pas la terre promise. L'Église de la terre, c'est pas la terre promise. L'Église du ciel, c'est la terre promise. Oui, mais c'est impressionnant de voir comment est-ce que Dieu est celui, encore une fois, qui m'accompagne dans ce pèlerinage, qui nous conduit à lui, communautairement et personnellement. Et c'est cette figure-là qu'a Dieu. Alors on verra ensuite comment Jésus, sur ce fond-là, nous fait entrer dans une nouvelle profondeur du message de Dieu. Vous voyez ?